Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute. La première Gay Pride de Prague a débuté ce mercredi. Le gouvernement a approuvé la stratégie de sécurité routière jusqu'en 2020 et puis une nouvelle famille, Rome, a été l'objet d'une tentative d'incendie criminel en Bohême centrale. Prague Pride, festival gay et lesbien de 5 jours dont le point d'orgue sera la tenue de la toute première marche des fiertés samedi, a débuté ce mercredi. Première du genre organisée dans la capitale tchèque, cette Gay Pride se déroule sur fond de tension. Le soutien du maire de Prague à l'événement a suscité la désapprobation et des déclarations ouvertement homophobes de plusieurs personnalités politiques, dont celle de l'un des plus proches conseillers du président de la République. La capitale tchèque attend 7000 participants et participantes samedi à la marche des fiertés qui se tiendra dans le centre-ville. Avant cela, près de 80 manifestations diverses de type concerts, expositions, projections de films, séminaires ou débats se tiendront dans plus de 30 endroits différents. Le ministre des Transports entend à ce que le nombre d'accidents mortels sur les routes tchèques diminue de moitié d'ici à 2020. C'est du moins ce que prévoit la stratégie nationale de sécurité routière approuvée ce mercredi par le gouvernement. Le principal objectif au cours des 10 prochaines années sera de réduire le nombre de victimes mortelles au niveau de la moyenne des autres pays européens. 753 personnes sont mortes sur les routes tchèques l'année dernière. Selon la stratégie présentée par le ministère des Transports, pas plus de 35 personnes par million d'habitants ne devraient mourir d'ici à 2020, soit un chiffre qu'atteignent déjà actuellement les pays meilleurs élèves en matière de sécurité routière, à savoir la Suède, la Finlande et la Norvège. L'évolution actuelle de la situation sur les marchés financiers dans le monde confirme la nécessité de poursuivre la consolidation des finances publiques et devrait mener à une réduction à un rythme encore plus soutenu des déficits des budgets des États. C'est en substance ce qu'a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Nečas ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, le premier de la rentrée. Dans une perspective à court terme, la seule solution possible est de réduire les déficits au maximum et de tout faire pour que la croissance des salaires ne dépasse pas la croissance de la productivité du travail, a complété le ministre des Finances Miroslav Kalousek, principal artisan des importantes mesures d'économie menées ces derniers mois par le gouvernement. Rappelons que pour l'année prochaine, la coalition gouvernementale prévoit une nouvelle réduction de 30 milliards de couronnes du montant du déficit du budget de l'État. Celui-ci devrait s'élever à 105 milliards de couronnes, soit près de 4,3 milliards d'euros. Une famille rome a été attaquée au cocktail Molotov dans la commune de Krti, près de Rakovnik, en Bohême centrale, dans la nuit de mardi à mercredi. Bien que les habitants aient réussi à étouffer la bouteille immédiatement, une des personnes a néanmoins été victime de légères blessures à une jambe. La police a ouvert une enquête. Le ou les coupables encourent jusqu'à 12 ans de prison. Une attaque similaire avait déjà eu lieu récemment dans un autre village de Bohême centrale. Personne n'avait été blessé. Plusieurs centaines de personnes en provenance de République tchèque et de Pologne ont participé ce mercredi au traditionnel pèlerinage de la Saint-Laurent, dont le but est le sommet du mont Sniejka, plus haut sommet en République tchèque avec 1602 mètres. Une messe y a été célébrée en présence du président de la République, Václav Klaus. En République tchèque, Saint-Laurent est non seulement le patron des cuisiniers, des pâtissiers, des confiseurs et des brasseurs, mais aussi des plus hautes montagnes. Une chapelle portant le nom du saint se trouve au sommet de Sniejka. On termine avec un mot de météo. Après une journée de mercredi de nouveau marquée par un temps très variable, aucune évolution notable n'est attendue pour ce jeudi, jour de la fête des Zuzana, Suzanne en français. Les températures sont toutefois en hausse et varient entre 19 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention et merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour, merci à Guillaume pour ce bulletin d'information. Vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français et vous avez bien raison. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons d'abord d'une conférence internationale organisée dans la capitale tchèque sur le thème de l'éducation des enfants surdoués. Puis nous irons faire un tour du côté de la charmante ville de Český Krumlov où se déroule en ce moment le Festival international de musique avec la star José Cura venue d'Argentine. Et puis dans la deuxième partie de ce programme, les chapitres de l'histoire avec David Allon qui s'intéressera à l'identité juive dans l'histoire des pays tchèques. Comment repérer un talent particulier chez un enfant et le développer par la suite? C'est l'un des sujets traités dans le cadre du colloque international sur les enfants surdoués qui se tient à Prague jusqu'à ce vendredi. Les enseignants, les psychologues ou les parents des enfants surdoués discutent de leurs expériences avec des experts des pays du monde entier sur des systèmes d'éducation réputés, notamment en Finlande ou en Corée du Sud. Plus d'informations avec Hanka Niemeczkova.
Remarquer son talent le plus tôt possible et l'encourager. Voilà, c'est ce qu'il faut faire pour développer le potentiel d'un enfant, d'après Eva Vondrakova. Psychologue scolaire et l'une des organisatrices du colloque mondial sur les enfants surdoués qui se déroule actuellement à Prague. Pour Eva Vondrakova, c'est identifier un talent particulier chez un enfant qui est crucial pour son développement ultérieur. Jusqu'à 25% des enfants pourraient se distinguer dans un domaine particulier, mais souvent, leur talent n'est pas révélé à temps. Eva Vondrakova estime que c'est l'enseignant qui devrait se rendre compte d'un don spécial.
Une partie des enfants surdoués est facilement reconnue par les enseignants. Ce sont ceux que chacun peut identifier, des enfants intelligents qui réagissent rapidement et n'ont pas de problème de concentration. Mais il y a aussi des enfants doués qui ont des troubles de l'apprentissage ou du comportement et leur talent est plus difficile à démasquer. Et souvent, leur talent ne sera jamais perçu par les enseignants. Le problème, c'est que les futurs enseignants ne reçoivent pas d'informations sur l'éducation des enfants surdoués lors de leur formation.
Mais il ne s'agit pas seulement de remarquer un enfant talentueux. L'art de communication avec cet enfant doit aussi être maîtrisé par les instituteurs et les parents. D'après Eva Mondrakova, l'approche individuelle devrait être pratiquée non seulement vis-à-vis des enfants surdoués, mais aussi à l'égard de chaque élève. Ce qui peut poser problème dans les écoles tchèques, où l'on trouve souvent une trentaine d'élèves dans une classe. Eva Vondrakova.
Si on veut bien éduquer nos enfants, activer leur esprit ou leur apprendre des valeurs morales, il faut surtout communiquer avec eux. Cela ne veut pas dire qu'on doit uniquement leur prêcher la bonne parole. Les enfants ont le droit à poser des questions. Il faut avoir le temps pour pouvoir parler avec chaque enfant de la classe individuellement. Trop d'enfants dans une classe implique moins de temps pour une approche individuelle. Tout ce qu'on néglige aujourd'hui chez nos enfants se répercutera négativement sur nous plus tard.
Les dispositions extraordinaires d'un enfant peuvent être masquées et difficiles à découvrir. Les enfants surdoués manifestent parfois des troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie ou la dysgraphie. On établit aujourd'hui des liens entre l'hyperactivité d'un enfant et son talent dans un domaine spécifique. Le talent ne doit pas être seulement intellectuel. Les enfants peuvent manifester des aptitudes sportives, manuelles ou artistiques. Eva Vondrakova pense qu'il n'y a qu'un seul pays européen qui intègre l'identification et le travail avec des enfants surdoués dans son système d'éducation, la Finlande.
Le fondement du succès de l'éducation finlandaise, c'est le fait d'observer les enfants tout le temps pour éviter qu'ils n'aient des lacunes par rapport au reste de la classe. Dès qu'un élève est un peu perdu, ne comprend pas quelque chose, on l'aide tout de suite à rattraper. L'élève peut donc continuer avec les autres et comme il comprend ou sait qu'il sera aidé en cas de problème, il n'a pas peur.
La problématique du repérage des talents et d'autres thèmes tels que le rôle des parents des enfants prodiges ou l'importance des mathématiques dans le système éducatif sont discutés au colloque mondial organisé cette semaine à Prague par le Conseil mondial de l'éducation des enfants surdoués.
Trois grands ténors dominent le programme du Festival international de musique qui bat son plein ces jours-ci à Český Krumlov, un des plus beaux sites historiques de République tchèque. Le festival a été inauguré par le chanteur mexicain Ramon Vargas. Il sera clôturé par un récital de Placido Domingo. Et au programme, il y a entre autres l'opéra I Pagliacci, Payas, de Ruggiero Leoncavallo, avec en vedette le chanteur argentin José Cura. Cette production est attentivement suivie par le public et la critique, et aussi par Václav Richter.
Le célèbre drame lyrique de l'amour, de la passion et de la mort, une des œuvres fondamentales du verisme italien, est très apprécié par les chanteurs lyriques parce qu'ils peuvent déployer toutes les qualités dans le rôle de Cagno, clown qui finit par tuer sa femme infidèle. Pour José Cura, travailler dans cette production ou présenter à ciel ouvert dans le parc du château de Český Krumlov n'a pas été sans problème.
First of all, I have to say a big thank you to my colleague Veilong.
Tout d'abord, je dois dire un grand merci à mon collègue Veilong. Je n'en pouvais plus. Merci de m'avoir remplacé, a dit José Cura lors d'une conférence de presse à Český Krumlov. Il était reconnaissant envers le chanteur Veilong Tao, qui alterne avec lui dans le rôle de Cagno, de l'avoir remplacé lors de la répétition générale, parce qu'il était fatigué et le temps pluvieux et humide a beaucoup éprouvé ses cordes vocales.
You know, I am not Czech. I'm not used to this weather.
Vous savez, je ne suis pas tchèque et ne suis pas habitué à un aussi mauvais temps, a constaté le célèbre ténor et a rendu hommage aux artistes tchèques ayant participé à cette production. C'est du jamais vu, s'étonnait-il. Au cours des 30 ans de ma carrière, je n'ai pas encore rencontré un cœur capable de poursuivre les répétitions sous la pluie et dans l'humilité sans se plaindre. De l'avis du chanteur, cela témoigne de la véritable professionnalité de ces artistes, mais aussi de leur respect pour le metteur en scène. C'est à l'ancien chanteur, chef de l'Opéra du Théâtre National de Prague, Josef Prudek, que les organisateurs du festival ont confié la mise en scène de ce spectacle. Il a abondamment exploité les possibilités du plateau tournant de ce théâtre, qui permet au metteur en scène d'orienter les spectateurs vers les différentes parties du parc. Josef Prudek a utilisé ces fréquents changements de décor pour donner au spectacle un style presque cinématographique. Malgré les caprices du temps, la première de l'opéra, le 5 août dernier, a été un succès et le public a chaleureusement applaudi non seulement le ténor argentin, mais aussi la jeune soprano tchèque Jana Šrejmaka-Čirková, qui a interprété le rôle de Neda. Même les critiques, qui restent normalement assez réservées lorsqu'il s'agit des productions estivales, se sont montrés plutôt satisfaits. Dans le journal Lidové Noviny, la critique Helena Havlíková apprécie l'art avec lequel José Cura s'est identifié avec son rôle. La critique du journal Pravo, Radmila Hrdinová, estime que la performance du chanteur témoigne de sa connaissance intime du rôle de Cagno et apprécie également que l'artiste ait respecté la conception du metteur en scène et n'ait pas exploité ce spectacle pour une exhibition personnelle. Selviera Drapelová, dans le journal Mlada Fronta Dnes, reproche au chanteur son style vocal naturaliste et trop robuste. Presque tous les critiques déplorent aussi l'utilisation des micros serre-tête qui amplifient, mais aussi déforment dans une certaine mesure, les voix des chanteurs. Ils se rendent compte en même temps que pour une production à ciel ouvert, un tel procédé est indispensable. Il est donc évident que les opéras donnés dans le parc de Český Krumlov ne sont pas conçus pour des mélomanes raffinés, mais pour un public qui aime à marier plaisir de l'ouïe et de la vue et passe sur les imperfections. Les fanatiques de la perfection n'auront plus qu'à écouter l'enregistrement de l'opéra réalisé dans un studio.
Suite de notre programme en français avec un nouveau chapitre de l'histoire aujourd'hui, chapitre proposé par David Allon. Ravagé à 90% par le génocide nazi, la communauté juive tchèque a ensuite subi sous le communisme, au mieux chape de plomb, au pire antisémitisme d'État. Résultat d'une histoire complexe, les juifs tchèques d'aujourd'hui affronteraient-ils des questions identitaires plus ardues que leurs coreligionnaires français ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre aujourd'hui David Allon dans ce chapitre de l'histoire.
chapitre de l'histoire.
Ce vendredi soir, à la synagogue du Jubilé dans la rue Jaruzalemska à Prague, se tient la cérémonie du Shabbat. Elle réunit, comme chaque premier vendredi du mois, un cercle de familiers actifs dans les domaines religieux et culturels. Parmi eux, Daniel Vaniek, chantre du Jubilé, mais aussi d'autres synagogues en dehors de Prague. Daniel illustre bien les conséquences des remous de l'histoire tchèque sur l'identité des Juifs après-guerre. Sujet tabou sous le nazisme puis sous le communisme, l'appartenance à la religion juive a souvent été oubliée dans certaines familles. Daniel s'est converti, ou plutôt est revenu au judaïsme, après avoir découvert qu'il avait des ancêtres juifs.
Mes parents me l'ont dit quand j'étais un petit garçon, c'était je crois en 1988, mais ma mère fréquentait déjà la communauté juive et se rendait aux conférences du rabbin Daniel Mayer. On en parlait donc à la maison et pour moi c'était comme une évidence. Je ne me suis posé aucune question à ce sujet.
Pourtant les rapports de ses parents au judaïsme étaient moins tranchés.
Lorsqu'ils parlaient du judaïsme, mes parents disaient parfois que c'était leur identité et quelquefois ils affirmaient que cela ne les concernait finalement pas tant que ça. Ils n'ont jamais été vraiment pratiquants.
Dans la famille de Daniel, les origines juives sont restées longtemps méconnues. C'est aussi ce qui a sauvé sa famille durant la guerre.
Moje babička byla sirotek, už neměla rodiče.
Quand la guerre a commencé, ma grand-mère était orpheline. Elle n'avait plus aucune famille. Elle ne courait aucun risque d'être arrêtée par les nazis car elle n'était enregistrée nulle part, ni comme chrétienne, ni comme juive. Elle avait eu des membres de sa famille qui n'étaient pas juifs et d'autres qui l'étaient sans l'être. Comme ma famille n'avait aucun grand-parent inscrit officiellement à la communauté juive, elle n'a pas eu à affronter les drames de cette histoire.
Avant 1939, la Bohême-Moravie comptait environ 90 000 juifs. 90% d'entre eux disparaîtront durant la Shoah. Aujourd'hui, on compterait autour de 6 000 individus se déclarant de religion juive en République tchèque. Mais le chiffre exact du nombre de personnes ayant d'une manière ou d'une autre des origines juives reste inconnu. Ex-président de l'Union de la jeunesse juive tchèque, David Kraus évoque le cas de personnes qui s'étaient adressées à lui pour établir des recherches sur de possibles ancêtres juifs.
J'ai moi-même rencontré certaines personnes que j'ai, je ne dirais pas guidées, mais avec qui j'ai travaillé sur ce sujet. C'est d'après moi l'un des piliers de notre organisation. Nous nous trouvons en effet en Bohême-Moravie, à un carrefour de l'Europe, où se sont mélangés des gens de tas de cultures différentes. Il est ici normal d'avoir, tout en ayant un père tchèque par exemple, qui une grand-mère juive, qui une grand-mère allemande, qui un grand-père italien, etc. La République tchèque est un pays laïque et son histoire, durant le siècle dernier, fut assez compliquée. Les cartes ont pu être parfois brouillées et aujourd'hui, un certain nombre de gens s'intéressent aux origines de leur famille.
L'Union de la jeunesse juive est une organisation très active dans les domaines religieux, mais aussi sportifs et culturels. Elle s'occupe notamment de l'entretien du patrimoine dans le pays, restauration de synagogues, entretien de cimetières. Mais il s'agit aussi de conserver vivantes les traditions et la mémoire d'une époque révolue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Je peux vous donner les chiffres de 1999, quand j'étais alors vice-président de l'Union. Nous comptions environ 400 membres venant de Prague, mais aussi de Brno et d'autres villes. Logiquement, la plupart des membres, environ 60%, sont des Pragois, qu'ils soient nés ou non dans la capitale.
À notre demande, David évoque l'histoire récente de l'Union de la jeunesse juive.
L'Union de la jeunesse juive tchèque a été créée en 1990, après le voyage d'un groupe de jeunes juifs tchèques et slovaques en Israël. Nous avons alors pensé qu'il serait bien de continuer à se rencontrer et de perpétuer une tradition qui avait disparu sous la période totalitaire. Au début, elle s'appelait l'Union de la jeunesse juive tchécoslovaque. Puis, quand le pays s'est divisé en 1993, se sont créés en parallèle une union tchèque et une union slovaque. Mais nous considérons bien sûr que nous avons beaucoup en commun et nos relations restent étroites.
Thomas Krauss, le père de David, est quant à lui vice-président de la Fédération des communautés juives de République tchèque. Il s'occupe d'activités religieuses, mais aussi d'activités sociales et culturelles. Car comme il l'avoue, il y a en République tchèque de nombreux juifs à qui la religion ne dit pas grand-chose. La famille Krauss, et c'est sans doute un cas assez rare chez les juifs tchèques et même en général, a pu remonter assez loin dans son arbre généalogique.
Nous avons pu retracer l'origine de nos ancêtres jusqu'à l'année 1720 pour ce qui est de la lignée paternelle. Ils se situaient tous autour de Prague, la plupart autour de la Sazava en Bohême centrale. Concernant ma mère, elle venait d'une famille qui avait été forcée de partir en 1938 des Sudètes. Elle venait de Teplice. Au total, notre famille vient essentiellement de Bohême. Nous avons aussi découvert qu'un arrière-grand-parent était rabbin à Plzeň.
Mais tout aussi unique fut le destin de ses parents durant la Shoah.
Mes deux parents ont été déportés et ils ont tous les deux survécu. C'est finalement un cas assez rare, car dans la plupart des cas où un couple était déporté, l'un au moins ne revenait pas. Mes parents s'étaient mariés avant la guerre, ils ont tous les deux survécu, mais de manière séparée, bien sûr. Ils furent déportés à Térézine et de là à Auschwitz, où ils furent chacun sélectionnés pour le camp de travail.
Après-guerre, le retour des Juifs survivants dans leur pays d'origine fut parfois difficile. Ainsi en Pologne, on se souvient du pogrom de Kielce en 1946. Selon Tomáš Kraus, ce ne fut pas le cas en Tchécoslovaquie.
Ici, il n'y a pas eu ce genre de problème, au contraire. Les gens, du moins dans le cas de mes parents, se sont comportés de manière très polie et leur ont plus ou moins rendu possible un nouveau départ dans la vie. Malheureusement, cela n'a duré que 3 ou 4 ans, car ensuite est venu le coup de Prague et surtout le procès Slansky. Pour les juifs tchèques, c'était un coup dur, car il s'accompagnait d'un antisémitisme d'État. Mon père n'y a perdu, entre guillemets, que son travail et son appartement, dont il a été expulsé. Il a donc ensuite dû habiter dans une garçonnière. Ce nouveau chapitre de l'histoire vous était donc proposé par David Allon et c'est déjà la fin du programme en français que vous retrouvez, vous le savez, tous les jours sur notre site internet www.radio.cz/fr. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité.